VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Abidjan, 13h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. Cour pénale internationale de La Haye, aux Pays-Bas, au troisième jour du procès de Laurent Gbagbo pour crime contre l'humanité, la défense de l'ancien président ivoirien a affirmé ce lundi que son rival, l'actuel chef de l'État de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, s'était emparé du pouvoir par la force. Maître Emmanuel Altit, avocat de M. Gbagbo, a aussi dit que la France ne voulait pas d'une paix négociée lors de la crise post-électorale ivoirienne de 2010-2011. Au Niger, la campagne électorale pour la présidentielle couplée aux législatives prévue le 21 février prochain s'est ouverte ce week-end. Fait marquant, un des 15 candidats, Ama Amadou, est toujours emprisonné pour une affaire de trafic de bébés. C'est par ailleurs l'incertitude sur le vote de près de 2 millions de Nigériens inscrits sur les listes électorales, mais ne disposant pas de pièces d'identité. La question divise la classe politique nigérienne. Ibrahim Tamponé est du MNSD Nassara, principal parti d'opposition.
La loi ne l'a pas prévu. Et puisque la loi n'a pas prévu, nous pensons qu'il faut respecter la loi. Je ne sais pas si la CENI peut modifier la loi. Il appartient à la CENI d'examiner la situation et de prendre la position qu'elle juge être la meilleure pour le pays. Mais nous insistons pour le respect de la loi.
Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous faire harakiri?
Mais nous en sommes bien conscients. On assume.
Pour sa part, le PNDS Taraya, le parti au pouvoir, affirme que l'opposition nigérienne fait tout simplement de la diversion. On écoute Babacar Sabo, un des responsables du PNDS.
C'est un droit constitutionnel le fait de voter, donc les dispositions réglementaires ne peuvent pas être au-dessus de la Constitution. C'est une omission au niveau de la loi. Les juristes appellent ça même une erreur matérielle. L'opposition, en réalité, ils sont pour que les 1 200 000 votes, mais ils veulent faire de la surenchère de la politique et puis pouvoir remettre en cause les résultats.
Des propos recueillis à Niamey par notre correspondant sur place, Abdulrazak Idrissa. Au Mali, les Maliennes disent non aux violences faites aux femmes. Suite à l'assassinat de Dame Kamissa Sissoko par son mari, des femmes ont organisé un recueillement et une marche à Bamako ce week-end. On écoute la correspondance de notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
C'est le samedi 23 janvier 2016 que Kamissa Sissoko a été assassiné par son mari qui lui a tiré une balle dans sa tête. C'était à l'ACI 2000 de Bamako. Une semaine après, les femmes viennent se recueillir sur le lieu du drame. Traoré Oumoutouré, président de la coordination des ONG et organisations féminines du Mali.
Ces formes de violence sont étrangères à notre société. Il faut que tout le monde se mobilise.
La marche est partie du monument de l'indépendance pour le centre Awa Keïta. Parmi les marcheurs, il y avait des autorités du pays, comme la présidente des femmes parlementaires du Mali, Fomba Fatoumata Nyambali.
La déclaration qui vient de nous être remise, nous allons en faire bon usage. Il y avait d'autres formes de violence maintenant. Les crimes qui sont en train de s'associer est inquiétant.
Si la marche a été dominée par les femmes, il faut reconnaître qu'elle est l'initiative d'un homme, Bala Mariko, président de Solidarité 223. Le slogan de cette marche était « Tape ton tam-tam, mais pas ta femme ». Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Soudan du Sud, les troupes gouvernementales ont tué en octobre 2015 une cinquantaine de personnes en les laissant suffoquer dans un conteneur de marchandises placé en plein soleil. C'est ce qu'a établi dans un rapport un groupe d'observateurs internationaux. Ce document a été établi par la commission de surveillance et d'évaluation de l'accord conclu le 26 août dernier entre le chef de l'État Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar pour mettre fin à la guerre civile. Le document a été soumis le 29 janvier au sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. En République démocratique du Congo, le ministre de l'Intérieur a annoncé le lancement de la révision du fichier électoral pour le 10 février. Cette opération technique pourrait prendre jusqu'à 13 mois, ce qui rendrait presque impossible la tenue de la présidentielle d'ici fin 2016, comme le prévoit la Constitution. Idriss Fall a recueilli la réaction d'Emery Damien Kaliroy, président de la coalition des Congolais pour la transition.
C'est une déclaration de guerre que le régime de M. Kabila et ses suppôts viennent de lancer contre le peuple congolais qui souffre de la mauvaise gestion du régime Kabila depuis 15 longues années. La face cachée de la déclaration faite par M. Évariste Boshab, il s'agit tout simplement de contourner insidieusement le prescrit de la Constitution qui ne permet pas à M. Kabila d'aller au-delà de son ultime mandat. Et ça, les Congolais ne vont pas accepter.
Emery Damien Kaliroy, président de la coalition des Congolais pour la transition. Cap maintenant sur le Tchad pour parler de la situation des réfugiés dans ce pays. Le représentant du Haut-Commissariat aux réfugiés au Tchad a tenu une conférence de presse ce week-end à N'Djamena. Bilan et perspectives en matière de protection et assistance aux Soudanais, Centrafricains et Nigériens réfugiés dans le pays étaient au centre des débats. Le point avec André Kodmadjingar, notre correspondant à N'Djamena.
Le Tchad est le quatrième pays en Afrique à accueillir plus de réfugiés sur son sol, selon le représentant du SR au Tchad, Josué Antonio Kanandola. Pour lui, plus de 370 000 réfugiés repartis en quatre groupes vivent sur le territoire tchadien. Pour mieux les prendre en charge, le représentant du SR informe que son institution les classe en deux catégories en tenant compte de leur situation. Il s'agit de réfugiés soudanais et centrafricains qui ont plus ou moins les mêmes problèmes.
Nous avons défini pour ces deux groupes de réfugiés, première chose, c'est la protection effective que nous et l'État tchadien donnons à ces réfugiés. La deuxième chose, c'est l'assistance, c'est leur donner tout ce dont ils ont besoin pour avoir une bonne santé.
Ensuite, il y a les réfugiés urbains qui vivent à N'Djamena et le groupe récent de réfugiés nigériens que le HCR assiste de façon particulière compte tenu de leur situation délicate.
Dans la situation nigérienne, il y a un gros problème de sécurité dans la zone du lac. Donc aussi, la protection représente pour nous non seulement la protection légale, mais aussi la protection physique dans la zone du lac. Et puis pour les réfugiés urbains, c'est essayer de voir quels sont les services qu'on peut donner. On ne peut pas assister aux réfugiés urbains en leur donnant l'alimentation, etc., etc. Sinon, ça va créer un camp en ville. Donc tout ce qu'on fait, on se concentre sur la santé et l'éducation.
L'assistance et protection, oui. Mais José Antonio Kanandola estime qu'il faut explorer d'autres pistes pour les rendre libres et autonomes.
Nous avons la tendance d'assister les réfugiés à l'infini, mais à un moment donné, la dépendance de l'assistance humanitaire fragilise l'être humain. Et c'est pour cela que nous sommes en train de travailler avec le gouvernement et les autres organisations pour essayer de donner aux réfugiés les capacités d'autosuffisance pour redonner la dignité aux réfugiés. Et pour cela, il a besoin de la liberté de mouvement. On est en train de discuter avec le gouvernement pourquoi un être humain doit être gardé dans un camp. C'est historique, mais le camp limite la capacité de l'être humain.
Dans la perspective 2016, des discussions sont déjà engagées avec les bailleurs de fonds, notamment la Banque mondiale, afin de relever ce défi, rassure le représentant du SR au Tchad. Il invite par ailleurs les Tchadiens à considérer ces réfugiés comme des êtres humains qui sont dans une situation difficile et non les stigmatiser. André Kodumadjingar N'Djamena, La Voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Campagne électorale aux États-Unis pour terminer. Les candidats aux primaires côté démocrate et républicain ont occupé ce week-end le terrain dans l'Iowa avant le vote crucial de ce lundi. Le républicain Donald Trump et la démocrate Hillary Clinton sont en tête des sondages, mais pas assez pour présager une victoire. Idriss Fall.
D'après le dernier sondage réalisé par le journal Des Moines Register, Hillary Clinton est préférée par 45% des démocrates de l'Iowa qui vont participer ce soir au caucus. Et elle est talonnée par le sénateur Bernie Sanders qui a la sympathie de 42% des démocrates. Il séduit la jeunesse avec sa dénonciation de la classe des milliardaires et son appel à une révolution politique. Ce soir, la mobilisation des étudiants pourrait aider à faire la différence. D'ailleurs, Mme Clinton a reconnu que la course est très serrée. Elle a multiplié les déplacements dans l'Iowa, exhortant les électeurs à choisir l'expérience plutôt que la nouveauté. Côté républicain, Donald Trump recueille 28% des intentions de vote devant Ted Cruz, sénateur du Texas, avec 23%. En troisième place, Marco Rubio, sénateur de Floride, qui recueille 15% des intentions de vote. D'origine cubaine, Rubio, qui rassemble les foules, est souvent cité comme second choix, tant par les partisans de Donald Trump que ceux de Ted Cruz. Après l'Iowa, les candidats vont aller battre campagne dans le New Hampshire où les primaires auront lieu le 9 février.
Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.